cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Alexandre Tarot.
Bonjour.
Alors vous publiez chez Harmonia Mundi un double CD, un double album autour d'Eric Satie. Un album qui s'intitule Avant-dernière pensée. Un album sur lequel vous n'êtes pas tout seul, puisque participe à cet album la chanteuse Juliette, le ténor Jean Delucluse, Éric Lesage, Isabelle Faust et David Guerrier également. Alors avant peut-être de vous demander un peu la genèse de ce projet, pourquoi vous avez choisi le titre Avant-dernière pensée, donc un titre de Satie, pour baptiser ce projet, ce double album?
C'est Eva Coutaz, directrice artistique d'Harmonia Mundi, qui a eu cette idée, en fait. C'est l'un des titres des pièces de Satie que j'ai enregistrées. Je n'avais pas pensé à un titre particulier pour ce disque. Je pensais tout simplement l'appeler Eric Satie. J'ai donné un titre à chacun des deux disques. Le premier solo, le deuxième duo, parce que c'est bien séparé dans ma tête. Mais je n'avais pas pensé à ce titre-là, un titre générique pour l'album.
Alors l'origine de ça, bon, Satie, j'imagine, est un compositeur, avant qu'on parle des spécificités, mais vous personnellement, comment, c'est quelqu'un j'imagine que vous avez commencé à jouer il y a un certain temps, comment son œuvre a évolué dans votre apprentissage, dans votre carrière, quel rapport vous aviez avec cette œuvre?
Alors déjà, j'ai découvert Satie par Madeleine Millot. Madeleine Millot, c'était la veuve de Dervish Millot.
Elle est décédée il y a un an, je crois.
Elle est décédée il y a un an. C'était quelqu'un que j'aimais énormément, comme une deuxième grand-mère pour moi. Elle habitait pas très loin d'ici, boulevard de Clichy. Et c'est une femme qui a traversé le siècle. Elle a même entendu Debussy, vous vous rendez compte. Et donc, c'était une amie, même une amie très proche, d'Éric Satie. Elle faisait partie des quelques personnes qui ont ouvert l'appartement de Satie après sa mort. Vous savez peut-être que personne n'est rentré dans cet appartement durant toute la vie de Satie. Et elle recevait Satie tous les mercredis. Il venait déjeuner chez les Millot. Et ensuite, il restait l'après-midi devant la cheminée. Il repartait à Arcueil après. C'était quand même quelqu'un qui a bien connu Satie. Et elle m'en a beaucoup parlé. Quand je l'ai rencontré, j'avais 8 ans. Donc, je posais beaucoup de questions durant mon enfance, toute mon adolescence. Et je me souviens que Madeleine Millot était furieuse qu'on ne garde de Satie que l'aspect drôle, humoristique, les petites anecdotes. Et elle pensait que sa musique que sa musique était beaucoup plus profonde que ça. Et je pense que c'est à cette période que j'ai pris la décision d'enregistrer un jour et de jouer en concert Satie si je pouvais en avoir les moyens. Alors ça a été le début. Ensuite, je suis rentré au conservatoire, mais pendant mes 9 années passées au conservatoire, on ne m'a pas parlé de Satie.
J'allais dire, ce n'est pas un compositeur en général qui rentre avec les élèves au conservatoire.
Non, plutôt, et pourtant, je pense qu'il est essentiel pour comprendre mieux la musique française du XXe siècle. Et voilà, donc il a fallu ce disque. Quand même, il y a quelques années, j'ai fait un spectacle autour d'Éric Satie à Bruxelles, au Théâtre de Rideau, un spectacle qui avait eu beaucoup de succès et qu'on a redonné 5 saisons de suite. À chaque fois, c'était à peu près une quinzaine de représentations. Donc, c'est un spectacle qui m'a beaucoup marqué. Et voilà, après, il a fallu convaincre Harmonia Mundi d'enregistrer un disque, Satie. Et aussi, j'avais toujours d'autres priorités, donc je mettais toujours Satie un peu de côté, et voilà, mais là j'ai senti que c'était vraiment le moment dans ma vie de l'enregistrer.
Mais personnellement, à travers votre évolution, c'est une œuvre qui est toujours restée à vos côtés, qui s'est éloignée, qui est revenue, comment, de par justement ce côté un peu particulier, puisque peut-être vous étiez en contact avec le compositeur, mais en ayant connu peut-être Madeleine Millot, il y avait peut-être un moyen justement de toucher un peu, est-ce qu'il y avait une spécificité presque, j'allais dire, sensuelle avec cette œuvre sur votre évolution?
Je ne peux pas dire que c'était une musique des partitions qui restaient sur mon piano. La musique de Satie, c'est comme le personnage, elle nous échappe. Vous savez que Satie, il se cachait, il se fâchait avec les gens, il pouvait disparaître. Et sa vie n'est qu'une succession d'apparitions et de disparitions. Je dirais que sa musique, c'est pareil. Le rapport qu'on a avec sa musique, c'est la même chose. Donc j'ai eu de nombreuses années sans Satie, d'autres où je me passionnais pour sa musique. Et voilà, c'est plutôt ça.
En même temps, c'est vrai que c'est un compositeur qui touche énormément, parfois sans qu'il le sache. J'allais dire le grand public. C'est vrai que ses musiques ont souvent été utilisées, que ce soit pour des films, pour du visuel. Et souvent, j'allais dire, c'est une musique qui semble contemporaine par rapport à cela. Est-ce que c'est peut-être aussi pour ça, justement, que qu'une partie, j'allais dire, de la planète classique l'a toujours plutôt laissé de côté, l'a jamais fait rentrer dans les conservatoires, comme vous l'avez dit. Quelle place vous lui donnez aussi par rapport à ce qu'elle signifie pour des gens qui ne sont pas obligatoirement des aficionados ou des amateurs de classique?
Oui, alors déjà, s'il n'a pas sa place dans les conservatoires, je crois que c'est parce qu'elle est considérée comme une musique trop facile à jouer ou qui n'est pas assez construite. Et Satie a souffert de son vivant, il a déjà souffert de ces critiques-là. Et presque un siècle après sa mort, sa musique elle baigne encore dans ces malentendus. Quant au grand public, je crois qu'en effet, c'est une musique qui n'est pas connue. Je rencontre régulièrement des gens qui me disent « Ah, c'est merveilleux, Satie, c'est mon compositeur préféré. » Et quand je leur demande « Mais qu'est-ce que vous connaissez de Satie ?» C'est uniquement la première gymnopédie, parfois la première ou la troisième gnossienne, et ça s'arrête là. Ou des titres parades ou morceaux en forme de poing, mais les gens ne peuvent pas siffler un thème de ces œuvres-là. Et je trouve que c'est quelque chose d'unique, finalement, dans l'histoire de la musique. Qu'il y ait autant de gens qui adorent Satie sans connaître son œuvre. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie d'enregistrer cette musique. C'est-à-dire dire
de la
attention,
défendre,
oui, attention, il s'agit d'un chef-d'œuvre. C'est un monument, la musique de Satie, qui est absolument fondamentale dans l'histoire de la musique et qui est d'une richesse inouïe. Voilà, parlons-en, écoutons-la et mettons de côté les petites anecdotes.
Comment on peut expliquer justement qu'un, par exemple, cette première gymnopédie qui touche, j'allais dire, aussi bien le très grand public que même des musiciens, enfin, elle a une sorte de magie presque tactile, c'est un peu une sorte de doudou, j'ai l'impression, et même, je pense, enfin, je ne sais pas pour vous, mais j'imagine pour beaucoup de musiciens, ça reste, même si c'est le tube un peu de Satie, pour utiliser un mot pas spécialement de l'univers du classique, mais c'est aussi quelque chose qui touche des musiciens, des grands musiciens, quoi.
C'est une musique universelle. Vous savez qu'en Asie, cette musique est considérée à l'égal de Bach ou Mozart. Hein. Aussi, les bouddhistes considèrent que cette première gymnopédie, comme les deux autres d'ailleurs, et les gnossiennes aussi, font partie des œuvres les plus proches de la pensée bouddhiste. C'est quelque chose. C'est vraiment une musique qui, je crois, touche tout le monde, toute la planète. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez inouï. Alors, je n'ai pas d'explication. Vous parlez de doudou, c'est vrai que c'est une... C'est en même temps, j'en parlais hier avec des amis, c'est quelque chose... C'est une musique qui paraît douce comme ça, qui n'a l'air de rien. Mais Satie, il n'est jamais là où on le croit. Et on a l'impression qu'il nous a écrit une petite pièce comme ça, j'allais dire de la pommade pour quand on va mal, on se fait une petite caresse comme ça. Mais c'est beaucoup plus profond, même tragique que ça. Les gnossiennes, prenez les gnossiennes, c'est un puits sans fond, c'est un précipice, mais ça n'a l'air de rien. Et les gymnopédies, c'est pareil. Quand on écoute le thème de cette première gymnopédie, qu'on a entendu partout, dans n'importe quel restaurant, n'importe quel ascenseur du monde entier, on a entendu sur le répondeur, on a entendu ce thème, et bien quand on l'écoute attentivement, jusqu'au bout, jusqu'au dernier accord, quand on arrive à la fin, on se rend compte qu'on n'est plus le même qu'au début, que c'est une œuvre qui nous a emmenés très très loin. Avec quoi ? 3-4 notes ?
Mais c'est une œuvre, en plus, il faut replacer dans son contexte. C'est-à-dire que depuis, il s'est passé tellement de choses. On lui dit qu'il y a peut-être l'influence, justement, de Satie, que ce soit sur le minimalisme, ou sur même peut-être la musique, j'allais dire, hors classique. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait effectivement peut-être un côté unique qui demeure, mais...
Une influence gigantesque sur les décennies qui ont suivi sa mort. Je pense par exemple à la musique répétitive. Steve Reich, c'est bien, bien après la mort de Satie. Et pourtant, quand on écoute Cinéma d'Eric Satie, c'est vraiment la musique répétitive. Vexation, cette petite pièce qui doit être jouée 840 fois et qui dure donc 19-20 heures, ce n'est pas autre chose que de la musique répétitive. Bien longtemps avant Steve Reich. C'est aussi lui qui a inventé la musique d'ameublement. Pour lui, la musique d'ameublement, c'est la musique qui ne s'écoute pas, qui s'entend. C'est-à-dire qu'on peut écouter dans la rue, qu'on n'écoute pas justement, donc qui passe comme ça, la musique dont on ne fait pas attention. Eh bien, c'est pas autre chose que la musique de fond. Et aujourd'hui, on est entouré d'une musique qu'on n'écoute pas. C'est Satie qui en parle la première fois, et c'est il y a un siècle. C'est aussi lui qui a inventé le piano préparé. L'avant-première du Piège de Méduse, ça se passait chez les parents de Roland Manuel. Bref, Satie est là devant un petit piano droit et il veut jouer sa musique de scène du Piège de Méduse, mais il veut un son de paille. Alors il met des bouts de papier dans son piano, il se rend compte que ça fait un son de paille, il est tout content. Bien, c'est la première fois dans l'histoire de la musique qu'on entend parler d'un piano préparé plusieurs décennies avant John Cage.
Si on revient justement sur cette première gymnopédie, quand on enregistre une pièce, comme vous l'avez dit, aussi connue, aussi universelle, qui, évidemment, ça pourrait être le cas à chaque fois qu'un instrumentiste, qu'un pianiste s'attaque à une œuvre qui a déjà été enregistrée tellement de fois. Mais là, comme vous l'avez dit, bien dit, c'est une œuvre qui est connue du monde entier par des gens qui n'ont peut-être pas même de musique classique chez eux. Comment on aborde ça, cet enregistrement ? C'est-à-dire, on rentre en studio, on a cette œuvre, alors il y a qui est dans la tête de tout le monde, dans le corps de tout le monde. Quelle est la démarche, enfin, concrètement, c'est-à-dire que est-ce qu'on arrive à se laver ? Est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, est un exercice encore plus difficile pour vous ?
De toute façon, enregistrer un disque, pour moi, c'est quelque chose justement de toujours plus difficile. Il y a une pression, en même temps, une pression que je me donne moi-même, quelque chose qui fait que j'ai l'impression, oui, que chaque disque est chaque fois plus difficile à enregistrer. Alors pour Satie, la difficulté n'est pas la même que pour un disque Rachmaninoff ou un disque Chopin. Ça se passe ailleurs, parce que techniquement, ce n'est pas une œuvre qui est très, très difficile à jouer. La difficulté, c'est plutôt d'être dans un état d'esprit autre. Pour bien jouer Satie, il faut vraiment se laver ou oublier tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, pour l'auditeur aussi d'ailleurs. Donc enregistrer Satie, c'est être dans un état quasi de méditation, c'est plutôt la recherche du son, voilà, avoir un son totalement libre, se laisser faire. C'est difficile quand on est un soliste, pianiste, se laisser faire, c'est-à-dire s'effacer, laisser aller ses mains, laisser venir Satie à soi sans vraiment... et là, on se rapproche du zen, d'ailleurs, quand je parlais de pensée bouddhiste tout à l'heure. C'est vraiment ça, laisser les choses se faire toutes seules. Alors, quand on est dans un studio d'enregistrement, qu'on doit réenregistrer 20 ou 50 fois la même pièce, voire la même mesure, c'est quasiment impossible.
C'est pas justement encore plus dur, difficile, quand il n'y a pas justement l'élément de virtuosité qui n'entre pas en jeu, comme vous venez de le dire, justement d'arriver à se laver, comme ça, mentalement.
Oui, tout à fait. Et vous me parliez de la première gymnopédie, c'est une œuvre qui paraît facile à jouer, qui n'est pas si facile, parce qu'il y a ce thème qui dure pratiquement 3 minutes, enfin en 2 parties, mais c'est quand même un très long thème qui doit être joué dans la plus grande simplicité. Et qui doit être chanté, mais sans chercher à créer un discours. Ça, c'est très difficile aussi. Quand on est pianiste, on veut avoir un beau son, faire parler le piano, donner des intentions presque à chaque note. Avec Satie, ça se passe ailleurs. Il faut vraiment jouer. Je pense que les enfants jouent très bien Satie, vous voyez. Les enfants jouent bien Satie comme ils jouent bien Mozart. Pour les pièces qui sont accessibles, évidemment. Mais voilà, un enfant n'a pas, ne se met pas la même pression. N'est pas, il est il a la tête dans les nuages. Il faut avoir la tête dans les nuages. Pour
vous avez réussi à redevenir un enfant pour engraver ce disque ?
Moi, je crois que je suis toujours un petit enfant, malheureusement.
Mais, le jour où vous ne pourrez plus l'enregistrer, c'est que vous serez devenu un adulte, en fait.
Mais je crois que je pourrais bien enregistrer Satie quand je serai très vieux. Mm. En fait, j'attends d'être très... Moi, la vie est difficile, mais j'attends avec impatience d'être très vieux. Je trouve que les pianistes très âgés... prennent une ampleur, enfin, c'est comme le bon vin, quoi, quand il prend de l'âge, il est... Et je crois vraiment, j'en suis presque sûr, mais le disque n'existera plus à cette époque, mais quand je serai vieux, je pense que je jouerai mieux Satie.
Parce que le disque existe encore, ou l'enregistrement, on va dire. Satie au disque, jusqu'ici, est-ce que vous aviez des interprètes qui vous touchaient plus que d'autres ?
Oui, Ciccolini, ça... Tout simplement parce que c'est par lui que j'ai rencontré Satie au disque, avec son intégrale que mes parents avaient acheté et que j'écoutais régulièrement enfant, notre petit tourne-disque. Et puis depuis, il y a pas mal de musiciens. Quand même, celui qui a très bien joué Satie, c'est Francis Poulenc. Il nous reste un enregistrement chez CBS qui a été réédité en CD. Et je pense que c'est le plus grand... interprète de Satie, peut-être parce qu'il l'a connu. Ce qui est le paradoxe, c'est que tous les musiciens, les grands pianistes qui ont joué Satie de son vivant et qui l'ont très bien connu, ne l'ont pas enregistré. Et ça, je trouve que c'est dommage. La grande Marcel Meyer, par exemple, il lui a dédié plusieurs œuvres. Elle l'a joué régulièrement en concert ou chez des amis ou pour elle. Dans sa bibliothèque musicale, il y avait un très grand nombre de partitions de Satie. Elle l'a pas enregistré. Ricardo Vignes a bien connu Satie, il l'a pas enregistré. Et je trouve que c'est vraiment un dommage.
Lorsque vous préparez un enregistrement, vous avez dit que c'était toujours quelque chose de difficile pour vous. Quelle est votre démarche par rapport, j'allais dire, aux enregistrements passés ? C'est-à-dire que vous avez plutôt tendance justement à ne plus rien écouter. Est-ce que vous voulez vous rafraîchir la mémoire ? Comment vous restez près de la partition ? Là, j'imagine que ça dépend peut-être de certains projets. Quel rapport vous avez aux disques qui ont bercé votre enfance, votre jeunesse, votre formation, vos enregistrements fétiches ? Comment vous faites évoluer votre musique avec ces disques ?
Les disques des autres.
Les disques des autres, bien sûr.
D'accord, ouais. Parce que nos propres disques, on a beaucoup de mal, on les écoute avec douleur. Les disques des autres, ils sont très importants, ils sont essentiels dans ma vie, ceux qui ont, comme vous le disiez, bercé mon enfance, mais aussi ceux que j'ai découverts récemment, ils sont tous dans mon iPod, et j'aime pas tellement le son MP3, mais bon, je m'y fais, comme tout le monde, j'essaye de vivre avec. En tout cas, c'est, quand on voyage autant que moi, je crois que c'est une bonne chose pour que les voyages passent plus vite. Mais voilà, j'ai tous ces disques dans mon iPod, et ils sont très importants pour moi. Parfois, je les écoute... les jours de concert, c'est-à-dire que quand je suis... Vous savez, on n'a pas forcément envie de jouer. On n'a pas forcément envie de jouer tous les jours. On n'a pas forcément envie de se montrer, d'être en pleine lumière, de jouer devant 2000 personnes dans tel pays ou dans telle salle, ou jouer sur tel piano, tel répertoire aussi. Là, je suis sur mes projets de disques, je suis sur d'autres compositeurs. Je n'ai pas forcément envie de jouer du Rameau ou du Chopin ou du Bach. Voilà, c'est du passé pour moi. Il faut que je réactualise ce désir. C'est une histoire de désir. Et parfois, quand je ne trouve pas la clé en moi pour retrouver justement ce désir, pour jouer à 20h ces pièces-là, eh bien, j'écoute un disque d'un pianiste qui m'inspire, comme Marcel Meyer, Émile Gilels, Glenn Gould, des gens, des jeux, des sons. Simplement, je les écoute... une minute, deux minutes, pas plus. Pas forcément les œuvres que je vais jouer, d'ailleurs. C'est bizarre. bizarre. Et tout de suite, ça me remet sur la voie. Ça me donne de l'inspiration, ça me rafraîchit la tête et le cœur.
À vous écouter, c'est par rapport à ces disques, et vous avez évoqué le mot voyage. On sait, parce que vous l'avez déjà dit plusieurs fois, je crois que depuis plus d'une dizaine d'années, vous n'avez plus de piano. Vous allez chez des amis pour jouer sur leur piano. Vous évoquez aussi souvent le fait de vouloir déménager, de ne pas trop... est-ce que finalement, ces disques, ce n'est pas un peu votre seule, votre principale maison et votre principale stabilité dans ce mouvement permanent?
Oui, vous avez raison. Ma principale maison, c'est la scène. Là, vraiment, je pense que je pourrais arrêter d'enregistrer des disques. Il en est question, d'ailleurs, en ce moment. Je pourrais arrêter le piano, également. Je pourrais arrêter la musique, tout simplement. Je le dis sans... C'est vrai, vraiment, je pourrais arrêter la musique. Mais je ne pourrais pas arrêter la scène. Je suis né sur une scène. Quand j'étais petit, je faisais de la danse. Mon père était metteur en scène, ma mère danseuse. Bref, je suis, dès les premiers mois, j'étais dans les coulisses de théâtre. J'ai parcouru bon nombre de théâtres du nord de la France, petites villes comme Tourcoing, Douai, tout ça. Enfin, c'était vraiment ma maison. Et aujourd'hui encore, je me sens plus chez moi sur une scène de théâtre que dans mon appartement. Donc ma maison, elle est là. Voilà. Après, c'est vrai que les disques apportent une stabilité. Je dirais que c'est plutôt un travail. Voilà. Pour moi, le disque, c'est avant tout une manière, c'est très égoïste, mais c'est une manière de travailler, d'aller le plus loin possible. Pas le plus loin possible, parce que c'est dès le lendemain d'un enregistrement de disque, on a envie d'aller encore plus loin. Mais en tout cas, de creuser bien profondément une œuvre. Parce qu'un disque, c'est 4-5 jours, c'est très dur, on va vraiment puiser très profondément en soi. Voilà, en fait, enregistrer un disque, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait jouer un peu mieux chaque fois, et c'est ce qui me fait approcher au plus près une œuvre, un compositeur.
Ce rapport avec la scène qui vous donne une sorte d'étincelle, d'électricité, c'est le rapport avec le public, c'est le côté sans filet, c'est comment vous le... Parce que vous dites, je pourrais me passer de musique, mais finalement pas de scène. D'où vient ce côté vraiment hallucinant? C'est parce que c'est dans votre disque dur, dans votre ADN depuis toujours, de par ce que vous avez cité, votre famille, etc., d'avoir toujours été comme ça sur une scène.
Oui, je pense que vraiment ça vient de mon enfance. Je suis né sur une scène, donc c'est ce qui me... Le piano est venu après la scène. J'ai commencé le piano à 5 ans, mais à 2 ou 3 mois, j'étais déjà dans les coulisses des théâtres. Je crois que ça vient de là. Et puis j'ai toujours aimé faire mon intéressant, j'ai toujours aimé, quand j'étais petit, j'avais besoin de me faire remarquer, et le piano est devenu une manière de me faire remarquer. Voilà, mais je pense qu'il y a d'autres manières de se faire remarquer, et puis il y a d'autres manières d'occuper la scène. D'ailleurs, on n'occupe pas très bien la scène quand on est pianiste, c'est pas du théâtre, le piano, on est plutôt limité, on n'utilise pas vraiment son corps, enfin... pas beaucoup, et on est plutôt très sobre, en fait. Être soliste, concertiste, ça ne laisse pas de place au théâtre, aux gestes superflus. On est plutôt nu sur une scène.
Quand vous collaborez avec des artistes de l'univers, enfin, qui n'est pas du classique, que ça soit, je sais pas, avec Juliette sur cet album, ou avec Bartabas, ou avec François Morel. C'est aussi un moyen pour vous, justement, de sortir un peu d'un univers, ou pour vous, c'est la même chose, finalement?
C'est la même chose, mais on rigole plus. Là, je suis en pleine tournée de ces nuits satis qu'on donne un peu partout en France. Alors, je suis entouré de gens qui déconnent du matin au soir, qui sont néanmoins de grands professionnels, une fois sur scène, mais enfin, on s'amuse comme des fous, comme des enfants. Il y a François Morel, Olivier Saladin, le ténor Jean Delescluze, mon ami pianiste Éric Lesage, et sur quelques dates, Juliette. Alors, je peux vous dire que ça explose, et malgré la fatigue des voyages, parce qu'on change de ville chaque jour, on est très fatigué, mais pour moi, enfin, je bois du petit lait.
C'est une influence sur ce que vous avez envie de faire après ?
Ben oui, ça a une influence, parce que je me demande toujours quel métier je fais. Ça me manque. Quand je fais des tournées de récital, je suis seul. Vous savez, c'est pas tout le temps drôle, hein, d'aller dans les hôtels tout seul, faire ses récitals. Je me demande parfois, mais est-ce que je n'ai pas plutôt le profil pour faire des spectacles qui vont plus vers le théâtre, ou travailler plus régulièrement avec des chanteurs, des comédiens. Vous savez, c'est un monde aussi qui est beaucoup plus simple. Les rapports sont beaucoup plus directs entre les comédiens, entre les chanteurs, notamment les chanteurs de chansons. Vous savez, je suis un fou de chansons françaises, donc j'en connais beaucoup, je connais ce milieu, et c'est un... Les gens sont beaucoup plus sympathiques. Le milieu de la musique classique est un milieu dur.
Quand vous passez d'un projet à un autre, c'est aussi un moyen de détruire pour construire autre chose. Enfin, passer de, je sais pas, de Rameau à Chabrier, de Kegel à Satie. Comment vous avancez comme ça? C'est-à-dire, est-ce qu'un projet vous donne envie de faire autre chose, pour ou contre lui?
Oui, à la fin d'un enregistrement, la voix s'éclaircit, quoi. C'est vrai que chaque enregistrement, on rebondit sur autre chose. Ça nous donne une nouvelle direction. Mais finalement, vous citiez Chabrier, Rameau. C'est la même famille. Oui, la même chose. C'est la même famille de compositeurs. J'ai l'impression, tout au long de ma vie, d'avoir comme un jeu de cette famille, voilà, enfin d'une seule famille, on va dire, et je tire à chaque fois une carte nouvelle, mais ces compositeurs-là sont tous, je crois qu'ils sont tous issus d'une même famille.
Je voudrais revenir sur ce rapport avec la scène. Il y a quand même une grosse violence, quelque chose de violent dans ce côté de pianiste, soliste, même si parfois, évidemment, vous jouez avec d'autres amis, ce côté d'être en voyage en permanence, vous avez dit vous-même, de se retrouver seul, etc., et soudainement de se retrouver face à un public. Est-ce que c'est justement ces deux extrêmes, c'est-à-dire une sorte de solitude permanente intérieure et presque d'exhibitionnisme? Vous avez dit vous-même, j'aime bien un peu faire mon intéressant, comme tout, c'est pas nouveau, etc. Cette violence, cette passée d'un extrême à l'autre, vous intéresse, vous excite, vous stimule, c'est un peu votre oxygène?
C'est excitant, mais comme vous avez tout dit, là, c'est en même temps très violent, et il faut se protéger. On ne peut pas être, on peut pas jouer devant 2000 personnes et se retrouver tout ça. Enfin, je vous dis ça, en même temps, on a besoin de se retrouver. En général, quand je sors de scène, j'ai envie de me cacher. Les séances de dédicace, par exemple, je les fais parce que j'aime ça en même temps. Et c'est le seul moment où on peut rencontrer un peu les gens. Ça ne dure pas très longtemps, mais quelques regards, quelques phrases. Et ça fait du bien, ça me fait du bien. Mais en même temps, c'est un paradoxe. Mais à ce moment-là, je n'ai qu'une envie, c'est de me cacher, d'être tout seul. Puis après, je vais me cacher dans ma chambre d'hôtel, mais je ne suis pas content parce que je n'ai pas envie d'être tout seul. Et voilà, quoi. Mais c'est vraiment, ce sont des ruptures d'une très grande violence, et qui fatigue, qui abîme. Je sens, vous voyez, je suis pas âgé, hein, j'ai 40 ans depuis quelques jours, et je me sens abîmé par cette violence, ces ruptures permanentes. Je vous donne un exemple. Après un concert, puis avoir un dîner très sympathique, on peut rencontrer des gens extraordinaires. bon, on discute, et puis on se dit, ben, on se verra l'année prochaine. Mais au fond de soi, on sait bien qu'on ne se verra pas l'année prochaine. On se verra peut-être dans 5 ans, voire dans 10 ans, dans 20 ans. Et puis, le lendemain, on part, on va dans notre pays, et rebelote, on se retrouve face à des gens. Donc, c'est quelque chose de difficile à gérer, ça. Il faut avoir une certaine distance. Mais on ne peut pas avoir toute la vie une distance avec les gens et avec ce que l'on fait. Donc, c'est... voilà, c'est une suite de ruptures violentes et ça ne s'arrête pas. La seule manière de s'arrêter, c'est véritablement de s'arrêter. Donc, de s'arrêter de jouer, de s'arrêter de donner des concerts. C'est ce que je fais chaque mois de décembre. Je fais un mois sabbatique. C'est ce que je vais faire dans la saison 2010-2011. Je fais une sorte de petite année sabbatique de 8-9 mois où je ne donnerai pas un seul concert. Mais ça repartira après. Vous comprenez ? C'est pas facile à gérer. Ça dépend des jours. De temps en temps, je me lève, je me dis, mais quel métier extraordinaire je fais, pourvu que ça dure toute ma vie. Et puis d'autres jours, je me lève et je me dis, mais attends, Alexandre, arrête.
On a l'impression que vous êtes dans un flot, presque, dans un courant que vous ne pouvez presque plus contrôler. C'est-à-dire, vous dites effectivement, des prises de décision, peut-être comme vous l'avez dit en début d'entretien, j'ai presque envie de tout arrêter parfois, d'arrêter de jouer, etc. Est-ce que... finalement, vous êtes pris un peu entre eux dans l'impression que vous vous laissez porter par le courant, parce que comme vous dites, il y a quand même des moments magiques, etc. Mais d'autres moments, cette folie, cette violence du courant, vous effraye et vous dites... donc vous l'impression que vous êtes un peu entre les deux.
Oui, le plus difficile à contrôler, c'est justement le contrôle des autres. Les organisateurs de concerts, les directeurs de festivals, la maison de disques... les radios, les médias, les gens veulent vous contrôler, ou en tout cas veulent vous donner. Et finalement, être musicien et faire une carrière, c'est dire non presque à longueur de journée. C'est-à-dire, voilà, par exemple, là je sors ce disque Satie, mais je ne veux pas jouer de Satie après, parce que je trouve que Satie ne convient pas au cadre du concert traditionnel. C'est pour ça que j'ai fait cette journée Satie à Paris, et je fais cette tournée avec des nuits Satie, donc un cas totalement différent, avec un autre rapport au temps. Ça va se terminer là, au début du mois de mars. Après, je ne veux plus jouer de Satie. Enfin, bon, sauf une fois au Japon, et puis peut-être en bis de temps en temps, vous voyez, deux, trois pièces, vraiment, mais de manière homéopathique. Mais tout le monde demande à mon agent, maintenant que le disque est sorti, tout le monde veut du Satie.
On veut le concert qui va avec le disque.
Non. Et ça, c'est pénible. Aussi, le fait de devoir... les gens s'attendent à quelque chose, donc veulent quelque chose de vous. Mais moi, je sais ce dont j'ai besoin, parce que je veux travailler, je ne veux pas être dans la répétition. Je veux travailler, je veux aller vers d'autres univers. Donc, c'est un combat presque quotidien. Avec ma maison de disques, même s'ils sont adorables, mais si vous voulez, voilà, il faut arriver à convaincre les gens, tous les gens, tous les corps de métier qui entourent le métier de pianiste.
Dans dans tout ça, où sont les, j'ai dit, les poches d'air, les bulles d'air, les, qui vous permettent justement de faire des pauses, de souffler, de vous ressourcer, de vous éloigner de tous ces, mauvais côtés presque parfois.
Bah, c'est la famille, ce sont mes proches, voilà, c'est mon lit chez moi. Et chaque mois de décembre, même s'il est pénible parce qu'il passe trop vite et que quand on s'arrête, quand on arrête c'est une vie qui est sur un fil tendu, comme ça il y a une tension permanente puisqu'on est dans l'anticipation, on est toujours dans le concert suivant. Si vous voulez, alors s'arrêter pendant un mois, c'est arrêter, c'est couper cette corde. C'est tombé malade à chaque fois, chaque année je tombe malade pendant une semaine, 15 jours, donc après il reste plus que 15 jours, ça va très très vite. Donc ce mois est pénible, mais en même temps c'est un mois où j'ai la vie de tout le monde, quoi. Je fais faire mes courses, je fais la vaisselle, enfin j'ouvre mon courrier en prenant le temps, c'est des choses toutes bêtes que je ne fais pas habituellement. Donc ça c'est aussi une poche d'air. Et puis ce sont encore une fois mes proches qui d'ailleurs pour la plupart ne sont pas musiciens et avec lesquels je ne parle pratiquement pas de musique.
Vous parliez de jeux de cette famille en évoquant les différents compositeurs avec lesquels vous jouez. Ce projet, Sati, vous donne envie maintenant d'abattre quelle carte ou vous donne envie d'aller vers quel compositeur pour quel projet?
Ben, il me donne des envies pour... à plus long terme, en fait. Le prochain disque est déjà prévu depuis longtemps, donc je vais retourner à mon Chopin chéri. Ce sera le troisième disque consacré à ce compositeur. Vous savez peut-être que l'année 2010, c'est le bicentenaire de Chopin, et ce sera un programme assez original, et, avec des pièces qui ont jalonné toutes mes années d'apprentissage. Voilà, de la première pièce que mon premier professeur m'avait donnée, la petite contredanse, jusqu'à certaines pièces que j'ai jouées tout dernièrement. Et voilà, ce sera ma manière à moi de fêter Chopin.
La manière à moi, c'est-à-dire la manière d'un interprète, Chopin, un compositeur, c'est dans l'interview que vous avez accordé à Télérama, qui est sorti ces jours-ci, vous avez dit dans le classique, vous profitez sans honte d'applaudissements qui reviennent à Mozart ou Beethoven. Quelle est la part d'Alexandre Tarot quand il joue Chopin ou Satie? C'est quoi un interprète? C'est quoi par rapport à...
Je crois vraiment à la dimension de création quand on interprète une œuvre. Je ne suis pas de ceux qui disent voilà, je joue le texte, un point c'est tout. Non, on joue avec toute notre vie. Et je crois que quand on joue une pièce de Chopin, il y a autant Chopin que notre vie tout entière. Il suffit d'écouter les disques du passé. Quand vous écoutez, je reviens à Marcel Meyer parce qu'elle m'obsède, mais pour parler d'un autre pianiste, mais je préfère parler d'elle. Quand vous écoutez, je ne sais pas, les pièces de Rameau, comme par hasard, par Marcel Meyer, vous entendez autant Rameau que Marcel Meyer. Et vous entendez, je parle d'elle aussi parce qu'on a plus de recul, ça fait 50 ans. Mais vous entendez autant l'époque de Rameau que l'époque de Marcel Meyer. Et quand vous écouterez dans plusieurs années, donc avec un peu plus de recul, mes enregistrements ou ceux des autres pianistes de notre époque, vous entendrez autant, ce sera un témoignage de notre époque, autant que la musique de Chopin est un témoignage de son temps.
Que représente pour vous cette spécificité, même si la musique est universelle, comme on dit en général, que le matériau de départ ait été composé par des gens qui sont morts? Jouer de la musique de compositeurs non seulement plus vivants, mais de siècles passés, filtrés justement par votre personnalité, par votre vie. Mmh. Cette spécificité-là, c'est quelque chose...
Ouais, c'est bizarre. Il faut avoir un sacré culot pour reprendre des œuvres. En plus, on les joue sur des instruments qui n'ont rien à voir. Alors, je ne parle pas de Rameau et Couperin, mais ou Bach, mais... Puisqu'on parlait de Chopin, les instruments de Chopin n'avaient strictement rien à voir avec les pianos d'aujourd'hui. Ça, on en parle moins. Mais et Ravel et Debussy, ils sont écrits et pensés, imaginés ces œuvres, leurs œuvres, avec des sonorités très différentes. Et puis, on n'a pas le même, on n'a pas le même rapport à cette musique. On a changé, notre morphologie a changé, notre rapport à la vie, à la musique, au son qui nous entoure, notre rapport au bruit, tout est différent. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé avec Mauricio Kagel, qui est décédé il y a quelques mois. C'était pour moi une grande perte. C'est quelqu'un que j'aimais énormément et que j'estimais beaucoup. Et à chaque fois que je le voyais, c'était une grande leçon de musique. Et musique, finalement, la musique, c'est le seul art qui a besoin d'être sans cesse réinventé. Et quand je travaillais ses œuvres, il me laissait une grande liberté. C'est-à-dire qu'il était capable de, ou lui-même, de changer les choses, de me dire, jouez là trois fois de suite. Ou plutôt que de jouer double piano, jouez triple forte. Vous savez, c'est Brendel qui dit que dans un crescendo, c'est pareil qu'un décrescendo. Mais c'est ça, il faut sans cesse bouger les choses, intervertir les cartes, puisqu'on parlait de cartes tout à l'heure. C'est ça, voilà. Et je crois beaucoup à ça. Quand j'ai enregistré les 24 préludes de Chopin, il y a 2 ans, évidemment, ces œuvres ont été enregistrées par les plus grands pianistes. Elles ont été enregistrées 2000 fois ou peut-être plus. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, ça sert à quelque chose parce qu'on a changé. Chaque jour, on change. Les micros même changent. Les pianos changent. Les pianos Steinway d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Et voilà, je crois que la musique classique doit être sans cesse rejouée et, pour reprendre la phrase de Kagel, sans cesse réinventée.
Comment justement intervient quand vous travaillez l'œuvre d'un compositeur vivant avec lequel vous pouvez discuter, dialoguer, répondre à vos interrogations, comment votre jeu diffère quand malheureusement Chopin ne peut pas répondre à vos questions, vos éventuelles questions, Kagel pouvait le faire. Comment vous approchez justement une partition, une œuvre, lorsqu'il y a communication avec un compositeur?
Mais est-ce qu'on a le choix? J'ai l'impression que ce n'est qu'une histoire de cohérence. On ouvre une partition de Chopin, on cherche un son, déjà je crois que c'est la première étape, des idées qui sont avant tout dans notre tête. Voilà, la première étape, elle est, intellectuelle. Ensuite, il y a l'étape tactile, physique. Qu'est-ce que ça donne avec mes doigts, ma morphologie, et avec ma vie qui arrive là en plein milieu, c'est une rencontre. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Cette œuvre-là, Chopin, cet instrument, et moi, avec toutes mes valises. Et on se retrouve sur un terrain commun et on va créer quelque chose ensemble. Je crois vraiment à cette dimension de rencontre. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas du tout. Alors quand ça marche pas, on le sait tout de suite, hein, en général. Donc on plie la partition, on la met de côté, on se dit peut-être que dans 10 ans, ça se passera mieux. Et si ça se passe bien, ou si on a l'impression que ça peut donner quelque chose, même si c'est pas évident au départ, eh bien, on n'a pas vraiment le choix. On va vers Chopin, on va vers le texte, mais par des chemins détournés. Et l'œuvre vient à nous aussi. Quelque sorte. Je sais pas si je m'exprime bien là-dessus, mais voilà, en tout cas, chacun fait un chemin vers l'autre.
Vous avez parlé de votre iPod tout à l'heure, même si vous n'aimez pas la compression. Le son, alors il y a quoi sur votre iPod en ce moment?
Mais j'écoute pas beaucoup de musique classique.
Ouais, ça peut... Donc, c'est pas un mal.
C'est vrai que je suis un fou de chansons, et là, dans cette tournée avec François Morel, qui lui aussi adore la chanson française, alors on se bat à coups de chansons en essayant de faire découvrir des chanteurs inconnus ou des chansons inconnues de l'autre, et c'est quand même lui qui gagne en général. Et Juliette aussi, parce qu'elle a une culture phénoménale. Mais j'arrive quand même à leur faire découvrir des choses, notamment puisque je suis un fin connaisseur de Barbara, certaines chansons inédites ou des chansons absolument merveilleuses qu'ils ne connaissaient pas. Aussi, j'achète beaucoup de disques qui sortent, parce que n'ayant pas de piano chez moi, j'ai besoin de vivre la musique autrement chez moi. Donc ça se passe dans ma tête, mais aussi en achetant des disques. Je suis un très grand acheteur de disques, ça va vous faire plaisir. J'achète beaucoup de disques par internet ou dans les magasins de disques. Je me retrouve avec des grandes piles de disques aux caisses, ce qui me fait souvent assez peur.
Il y a quoi dans la dernière pile que vous avez acheté?
Des jeunes pianistes. je suis très sensible à ce qui est, par exemple, le disque de concerto de Bach par, David Frey, merci, ou d'autres disques de jeunes pianistes moins connus, moins médiatisés, mais qui sont tout aussi intéressants. Et je prends, c'est-à-dire, quand un disque ne me plaît pas, j'en suis malade, comme si c'était le mien. Mais je continue à suivre ce pianiste. Ils le savent pas, hein. Ils savent pas que je l'ai. Enfin, de temps en temps, j'envoie des petits mails quand on a un ami commun, ou simplement parce que je sais que ça fait toujours du bien quand un autre musicien, surtout quelqu'un qu'on ne connaît pas, nous dit bah tu vois, j'ai bien aimé ça, je trouve ça bien. Et alors voilà, je suis ces musiciens comme s'ils étaient mon frère ou un ami proche. Et quand je les vois évoluer de manière très positive, quand je vois que de disque en disque ça s'améliore, je suis vraiment tout content. Et quand je vois qu'un disque est raté ou ça me rend malade.
Merci Alexandre Tarot.
Et merci.
Rencontre par Marc Zisman.